Eh bien, allez, Arthur, je te laisse la parole pour cette intervention, notre dernière soirée littéraire sur le livre de Pascal Quignard qui s'appelle Une journée de bonheur. Mm. Tout en programme.
Qu'est-ce qui m'a pris de m'attaquer à Pascal Quignard? Donc, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Pascal Quignard, c'est un. J'allais dire, c'est un de mes maîtres, vraiment, je pense. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, donc qui est toujours vivant. Je sais pas combien le connaissent ici, non?
Non,
moi je suis un petit peu.
Ouais.
On a eu
la fille. Ok.
Non, je connais pas.
Moi, il est né en 1948. Il doit avoir, je sais pas, 77 ans, quelque chose comme ça. 77 ans. Il est encore très actif. Hein, c'est.
Il voilà. Son âge.
Ouais, bah oui.
48,
sinon c'est qu'il me dit. Non, mais... Est-ce qu'il a un fils?
Oui,
je
ça fait.
Qu'il en a un, ouais. Je crois pas qu'il en a un, effectivement. Donc voilà, je sais même pas comment je pourrais résumer sa biographie tellement il a produit toute sa vie, quoi, des œuvres, il a fait des tomes et des tomes et des tomes, dont son grand tome qui s'appelle Dernier Royaume, qui se découpe en plusieurs tomes. Enfin, je ne sais même pas combien il a écrit de livres en tout. Il a passé sa vie. Moi, j'ai l'impression que c'est extraordinaire, que c'est autant il explore le sensoriel, il va dans le chamanisme, mais il peut aussi aller dans la poésie pure. Il va dans des anecdotes. En fait, il est très très doué pour piocher en fait des anecdotes historiques complètement oubliées. Donc il va dégoter, apparemment il avait accès aux archives, de la bibliothèque de Paris. Enfin bon, il va vraiment chercher très loin, et je pense que ce qui l'intéresse, c'est aussi les petites anecdotes qui sont pas très, très connues. Donc lui, bon, alors pour résumer quand même, il a quand même été issu d'une famille de grammairiens, de musiciens, bon il a un petit peu baigné là-dedans. Il a étudié la philosophie aussi. Il a très brièvement travaillé dans l'édition, aussi dans une carrière musicale. Et puis, depuis des années, maintenant, il se consacre pleinement à l'écriture. Donc voilà, son œuvre, pour moi, elle est assez inclassable. Elle se situe un peu à la frontière de tous les genres, c'est-à-dire entre essai, fiction, méditation philosophique. Et son style, je trouve qu'il est assez inimitable, quoi. C'est souvent lyrique... évocateur, souvent empreint d'une certaine mélancolie, beaucoup, voilà, mais en même temps en quête de beauté, de joie. C'est tellement foisonnant et complexe que évidemment on peut rien réduire quand il s'agit de Quignard. Il y a un langage qui est précis, qui est sensoriel, qui est en même temps qui va très très loin dans la philosophie. Bon, vous l'avez compris, c'est un de mes maîtres. Voilà. Donc, Une journée de bonheur, en fait. Pourquoi ce livre? Parce que je l'ai lu il y a peu, un an ou deux, à peu près. C'est celui-là. Et c'est une sorte d'essai donc, poétique et philosophique, à la manière de Quignard, hein, qui est très adepte des petits fragments. Et en fait, j'ai bien aimé. Je me dis, je vais proposer ce thème parce que c'est un thème qui parle finalement de comment vivre le temps. Du rapport à l'instant, du rapport au temps, du rapport aux étapes de notre existence notamment. Et je me suis dit que ça ferait un bon thème pour les soirées. Je vais essayer de pas être trop longue, hein. Normalement ce sera plus court que d'habitude. Et donc en fait il part vraiment de cette citation latine d'Horace, enfin, qu'on connaît tous a priori, c'est Carpe Diem, qui veut dire littéralement « cueille le jour ». Et en fait, Quignard se demande, mais en fait, pourquoi qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi cueillir le jour? Pourquoi produire cet acte qui va finalement être presque un acte de devenir arracher quelque chose? Et donc, en fait, toute la première partie du livre, en fait, les trois quarts du livre se déploient autour des métaphores des fleurs. Donc c'est surtout ça l'élément central dans le livre, c'est les fleurs. C'est-à-dire qu'à partir de ce carpe diem, il va vraiment reprendre cette notion du geste de cueillir, du geste d'arracher, de couper. Voilà, pour essayer De comprendre métaphoriquement qu'est-ce que ça veut dire aussi dans notre propre expérience humaine par rapport au temps quand on veut cueillir le jour. Donc les fleurs, c'est pas que des éléments décoratifs, hein, c'est vraiment le motif central. Alors j'ai noté, hein, je vais vous lire des petites citations au fur et à mesure parce que si ça vous va. Mm-hmm. Alors. Donc il parle là-dessus. Pourquoi cueillir? Pourquoi irrésistiblement se pencher vers la terre, déterrer ce qui luit, ou ce qui s'entreaperçoit entre les feuilles, ce qui se distingue tout à coup dans les pierres et les troncs morts? Pourquoi s'arrêter sur place, s'agenouiller, prendre? Pourquoi lever la main, se hausser sur la pointe de ses pieds, sectionner, détacher, cueillir? Pourquoi tuer le plus naissant, le plus touchant, le plus fragile, le plus beau, le plus périssable? Pourquoi écourter la vie des branches des arbres et interrompre l'existence encore plus brève des fleurs qui dressent toutes leurs étranges sexes magnifiques vers le soleil? Pourquoi s'éprendre de certains végétaux avec une sorte de zèle, d'obsession, presque d'amour qui en nous se fait avec le temps irrésistible? Pourquoi les arracher sans hésiter à la fécondation qu'ils promettent? Pourquoi nous plaisons-nous si aisément à rendre impossible la succession du fruit qu'il ne développe pas encore mais qui en oriente néanmoins l'éclosion? Je ne doute pas qu'une pratique semblable puisse recevoir des significations différentes selon les sociétés qui se sont dispersées sur l'espace émergé de la Terre, suivant les modes contrastés de génération en génération, au cours des époques et du temps. Et donc il dit effectivement « Je vais chercher à comprendre ce mouvement qui, s'il n'est pas universel, est invétéré ». Puisqu'apparemment, il a testé dès le paléolithique qu'on coupait les fleurs, qui consiste à prélever les fleurs dans les champs, sur les rives, dans les forêts, en haut des montagnes, et à les disposer dans les demeures souterraines auprès des eaux rassemblées et teintes d'ocre des morts, ou à les exposer dans les temples auprès des dieux, auprès du silence des dieux, et à en construire les parfums sous forme de bouquets, en les introduisant dans des écuelles ou en les amassant dans des grands vases de bronze, au fond desquels on a versé un peu d'eau pour qu'elles s'y épanouissent. Donc voilà, donc c'est un peu le début de toute la réflexion de Quignard à partir de se cueillir le jour. Et donc ce qu'il dit de fort, alors je m'excuse vraiment d'avance pour peut-être l'aspect un petit peu désordonné de mon intervention ce soir, mais c'est tellement dense que c'est très dur de vraiment venir sectionner les éléments les uns après les autres. Mais c'est que justement, bah, comme vous l'avez compris, le cueillir, pour lui, n'est pas une manière de vivre finalement, mais de venir tuer. Et il parle, lui, de sacrifier. C'est-à-dire, en fait, pour lui, le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est offrir de la vie à la vie pour plus de vie. Il dit, il y a un plaisir intense, religieux, parfaitement silencieux, mystique, énigmatique, à offrir la mort pour accroître la vie. Donc en fait, il s'évertue finalement, bah, ça, si vous lisez le livre, vous le verrez tout au long du livre, à remettre un petit peu en cause, mais de manière subtile et fine en fait, cette notion de la cueillette qui donc en fait va impliquer un arrachement brutal, un désir en fait de quoi? De venir saisir la beauté pour s'en emparer, mais plus dans une intention finalement de possession que de contemplation. Voilà, ça va pour tout le monde.
Mmh. Attends, il observe que les gens font ça ou c'est lui qui fait ça?
Non, tout le monde fait ça. C'est-à-dire, dans toutes les cultures, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est là depuis le paléolithique, et dans toutes les cultures, pour les cultes en fait, et là il va nous parler spécifiquement du Japon en fait, il va vraiment s'arrêter sur le Japon. Mais voilà, ce qu'il explique aussi, c'est qu'on est l'homme est né avec les fleurs finalement. Enfin, parce qu'en fait, au temps des dinosaures, les fleurs n'existaient pas, pardon. Et donc l'humain, voilà, tous les petits... Oui. Et donc en fait, les mammifères sont nés avec les fleurs. Et donc il y a un lien très très particulier avec les fleurs, voilà, qu'on s'est approprié aussi pour nos rituels. Et donc... Quignard, donc, il va nous parler donc, de cette beauté éphémère des fleurs coupées, de leur fragilité extrême. En fait, comme si la fleur, symboliquement, elle avait cette capacité à concentrer en un instant vivant, une beauté presque irréelle. Évidemment, on sait, on a fait une méditation il n'y a pas longtemps sur les fleurs. C'est vrai qu'on s'est tous dit, mais en fait, la fleur, c'est vraiment ce qui vient de nous arrêter notre regard tellement... Il y a quelque chose de très attractif dans la feuille. On ne sait pas pourquoi. Alors, il en parle, lui, il dit à un moment que c'est, je crois, le sexe séducteur de la plante, quoi, en gros. Mais c'est vrai que c'est rare que les fleurs laissent complètement indifférent. Ça peut sans doute arriver. Mais voilà, en tout cas, il y a comme un accord un peu universel sur la beauté des fleurs. Donc, elles vont concentrer en un instant. Voilà, c'est cette beauté-là. Donc, leur éclosion, c'est vraiment un moment de splendeur intense. Mais en même temps, elle est rapidement suivie du flétrissement et de la mort. Et donc, cette brièveté de leur existence, ça en fait des symboles puissants de la fugacité du temps qui passe comme ça. Et comme si, en fait, on voulait, nous, humains, pour lui, interrompre, prélever l'instant pour mieux le figer quelque part. Vous voyez, il y a vraiment cette notion dans ce geste d'arracher, de venir figer quelque chose de ce qu'on estime être au moment le plus beau, le plus haut, le plus intense, comme finalement pour nous arracher à notre propre destin, plutôt que de considérer que en fait chaque étape, chaque déroulement de l'existence est important et que la conscience même de notre finitude aussi rend le moment beaucoup plus intense et précieux. Et d'autant plus rare. Et finalement, donc, cette image de la fleur coupée qui va être offerte en sacrifice ou admirée dans sa pleine floraison, elle va vraiment venir illustrer chez Kinner cette volonté d'isoler la durée pour en retenir le condensé de bonheur qu'elle contient à un moment donné, mais qui du coup va finalement devenir un acte de rupture qui va arrêter la vie, quoi, qui va arrêter le temps. Et donc, il va vraiment venir découper la continuité du présent aussi en écrasant le vivant. Donc voilà, pour Kinyar, en gros, si je résume un petit peu, c'est comme s'il fallait accepter d'entrer dans un temps, sur un plan qui nous fait aussi souffrir, qui est aussi celui de l'impermanence, quelque part, du mouvement, voilà. Pour se rapprocher simultanément de la jouissance de cet instant. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je dis? Ou ça va à peu près? Ouais. Personne n'est noyé.
Tout va bien.
Ok.
Et toi, ça va?
C'était ça la question.
Donc il dit l'idée de vivre au présent, de faire durer le bonheur actuel, de faire se prolonger l'occasion ou la circonstance ou le bonheur, ne requiert en aucune façon cette image de trancher un premier état de vie alors qu'elle est à peine éclose. Donc lui, il s'appuie beaucoup sur une coutume japonaise qui consiste à cisailler une branche, des fleurs, à les déposer dans ce qu'on appelle le tokonoma. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une sorte de niche murale, en fait, qui est mise dans les maisons japonaises, une sorte de cadre vide, en fait, qui est soit laissé vide, soit rempli notamment par des petits objets, des fleurs, enfin c'est plus un lieu un peu de prière, quoi, voilà, où en fait la force va passer, la force notamment là, de la fleur qu'on va mettre va passer, on va contempler son brusque épanouissement puis son déclin, et elles sont destinées par exemple un petit peu au culte des ancêtres, comme si on voulait les réirriguer en fait d'une force de vie qu'on venait finalement prélever, voilà, pour les réirriguer de cette force là. Mais aussi, voilà, il parle beaucoup du guerrier, le guerrier qui est celui qui s'offre à l'interruption mortelle. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la vie du samouraï au Japon est appelée la voie du cerisier. Voilà, parce qu'il y a voilà, quelque chose de l'ordre du sacrifice, en fait, de l'homme voué à cette interruption mortelle-là. Alors, je vais venir rapidement. Donc il dit le mot japonais ikebana se décompose en ikeru et ana. Mot à mot, ça veut dire revivre fleur. Une fois que la fleur a été sectionnée, le maître la fait accéder à une autre existence, brève, sans fécondation, où elle périt dans une brusque beauté. Là où le français dit arranger des fleurs, composer un bouquet, le japonais dit faire revenir Anna, une fleur. Au Japon, il s'agit plus d'un revenir que d'une épiphanie. Ouais. Deux mouvements se succèdent dans la nouvelle existence qui est offerte dans le monde japonais, au retour dans le monde des vivants de ce qui est coupé. Trancher la branche naissante et horizontale sur l'arbre pour la verticaliser, en sorte que Anna, donc la fleur, soit érigée. Il ne s'agit pas seulement de cisailler une fleur, mais aussitôt de la dresser. Comme sur la ligne de l'horizon se lève le soleil, la branche du prunier, qui a été coupée, est parfaitement horizontale. Elle partait à la perpendiculaire du tronc de l'arbre fruitier avant qu'on la prélève. On va la placer verticalement dans le vase comme une tablette des morts dans le sentier qui fait office de cimetière. Voilà.
Ikebana, c'est une voie, ouais. C'est un chemin pour accéder. C'est une voie, quoi, comme le. Ce qu'il y a d'autre, la calligraphie, le zen, la méditation.
La voix du samouraï.
La voix de ?
Du samouraï ?
Non, non, une voie, c'est-à-dire un chemin qui conduit, un chemin spirituel, on pourrait dire.
Oui, d'accord.
Pour accéder à...
En tout cas, l'idée vraiment dans ce geste de venir couper, découper la fleur, la mettre là comme un rituel sacré, etc. C'est vraiment cette idée de redonner une vie, de redonner de la beauté de manière très éphémère en fait à ceux qui peuvent en avoir besoin. C'est vraiment l'idée de venir redresser quelque chose finalement en sacrifiant du vivant. On vient redresser quelque chose, mais finalement on le voue à un flétrissement encore plus brutal et rapide, quoi. Donc déjà le cycle de vie de la fleur, là, son bourgeonnement, son éclosion, son flétrissement, enfin la danse, c'est évident que c'est une métaphore du cycle de la vie humaine, quoi. Et donc en fait cette méditation sur la beauté et la finitude des fleurs, Kinyar nous invite vraiment à réfléchir sur l'importance d'une juste appréciation de chaque étape, en fait. C'est-à-dire de tout ce qui a besoin de temps pour maturer en nous, pour se révéler aussi dans sa pleine beauté. Et ce qu'il dit, et une des choses que je trouve presque le plus intéressant, parce que tout est intéressant dans son livre, c'est que cueillir une fleur, pour lui, ça vient évoquer un trop tôt. Ce trop tôt dont il parle, c'est-à-dire que ça se réfère pas, c'est pas forcément littéralement une cueillette prématurée, mais ça nous renvoie à une forme d'impatience, en fait, d'inattention, de manque de préparation, finalement à la pleine manifestation de la beauté.
Le fait de l'accueillir, c'est ça ?
Ouais, c'est il y a quelque chose qu'on vient arracher trop tôt, et que qui te dit qu'un jour ou deux jours plus tard, elle aurait pas été encore plus belle, tu vois ? Qui te dit que, tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'on vient.
Qu'on vient couper dans son élan.
On vient couper, voilà, mais parce qu'en fait, il y a une forme d'impatience aussi, et de vouloir, comme de refuser aussi que les choses puissent se faire avec lenteur pour révéler leur pleine essence, leur pleine substance, en fait. Voilà, c'est pour ça que quand il parle de la fleur qu'on ne va pas finalement laisser... féconder les autres, parce qu'on va l'arracher, on va la couper. Il y a quelque chose qu'on est en train finalement déjà d'interrompre dans le cycle même de la vie et de ce qu'elle a elle a révélé aussi dans la perpétuation de la vie, etc. Donc alors il dit j'arrive au cœur de ce que je cherche à penser de se cueillir les fleurs. Ce n'est pas à la striction de la fleur sur sa tige, c'est à ce trop tôt, ce à quoi la méditation se confronte. Ceux qui dressent les fleurs et composent les bouquets en marchant dans la nature ne scient pas, ne tronçonnent pas, ne rompent pas des végétaux. Ils prélèvent ce trop tôt bouleversant. Face au trop tôt temporel, ce qui compte est cet extraordinaire et unique mouvement de danse, c'est-à-dire de renversement que manifeste avec tant de clarté le cueilleur japonais. La branche horizontale devient verticale, hissée vers le ciel. C'est le mât qu'il offre aux démons qui s'y perchent. Donc, cueillir ce trop tôt pour Kinyar, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est déjà la cueillir trop tôt la fleur, ça nous renvoie au risque vraiment de rater ce moment de plein épanouissement où elle va être finalement à l'apogée de sa beauté. C'est finalement aussi vouloir poser un refus de tout ce qui est de l'ordre d'un rythme naturel qui est en fait lent, qui est inéluctable. C'est comme vouloir forcer une éclosion, vouloir retenir la fleur à un stade particulier de son développement. Et c'est donc aller contre le cours naturel des choses et potentiellement anticiper, précipiter les choses, effectuer une sorte de saisie hâtive, mais qui finalement va nous faire passer complètement à côté de la signification de chaque moment. Et finalement va le désacraliser. Il parlera plus tard dans son livre que la cueillette des fleurs va quasiment désacraliser le printemps. Donc l'évocation de ce trop tôt, en fait, ça nous parle, je trouve, de cette capacité qu'on a à se placer dans une attention un petit peu réceptive, dans une sorte de lenteur contemplative aussi, pour laisser à la vie le temps de nous livrer ses secrets et d'être là au bon moment pour les entendre. Donc pour lui, vouloir retenir les choses dans leur perfection, finalement, nous prive d'une expérience fondamentale qui est aussi d'apprendre à aimer l'imperfection de l'existence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, non ?
Dans le geste de cueillir, tu veux dire ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, quand tu cueilles...
T'es d'accord.
T'es d'accord, Zorba ? C'est-à-dire que si tu laisses la fleur faire son chemin, finalement, elle va peut-être révéler sa beauté, finalement, 2, 3, 4 jours plus tard, 3 semaines plus tard, j'en sais rien. Mais après, il y a l'étape aussi où elle va petit à petit décliner, etc. Mais toujours en suivant ce rythme-là, tu vois, ces pétales vont aussi commencer à se flétrir et tout ça, comme nous-mêmes, finalement. Comme nous-mêmes, on va être confrontés à la vieillesse, on va être confrontés à quelque chose comme ça, en fait, de l'ordre aussi d'une forme de déclin qui n'en est peut-être pas vraiment, d'ailleurs. Et y a quelque chose comme ça, en fait, dans cette capacité à laisser infuser les choses, à les laisser maturer, à les laisser aussi un petit peu décliner. Et en fait, il ne fait pas référence directement dans ce livre, mais il y a une tradition au Japon qui s'appelle le wabi-sabi, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une sorte de notion esthétique qui valorise la beauté de l'imperfection. Donc dans le wabi-sabi, on aime tout ce qui est imparfait, en fait, tout ce qui est inachevé, tout ce qui est usé par le temps, en fait, qui est vraiment dans une simplicité rustique aussi. Donc par exemple, au niveau esthétique, ça peut être des objets anciens, des céramiques complètement tordues, imparfaites, qui peuvent être porteurs finalement d'une immense beauté en raison de leur histoire, de leur patine, tout ça. Donc Le wabi-sabi, ça nous incite vraiment à vivre de manière simple, en acceptant notre propre défaillance, celle du monde qui nous entoure, et donc apprendre à accueillir finalement l'imperfection, le défaut même de notre force, voilà, avec curiosité et amour, plutôt que de vouloir dans ce geste-là d'arracher, de maintenir, de vouloir rester un certain état connu donner. Voilà. Donc, il parle, lui, dans la culture japonaise, en fait, qui est très imprégnée de culture animiste et puis de sensibilité à la nature. Le temps est personnalisé beaucoup par le ruissellement de la montagne. Donc il va symboliser vraiment la pureté, le mouvement inarrêtable de la vie, etc. Et c'est vraiment une manière qui va être beaucoup plus douce et sereine que de cueillir le jour, que vraiment de pouvoir se fondre, en fait, dans l'écoulement du temps par rapport à une approche en fait qui serait beaucoup plus active et finalement anxieuse en fait, de vouloir saisir et retenir les choses. Donc il dit le temps face au jour est la poussée indéclinable et continue de l'eau. Dans le monde de la nature, il est le courant au sein du lit du fleuve, la poussée, le pouls, la pulsation, l'impulsion du vivant dans le site. Et il est donc page 37. Il dit « À vrai dire, le secret du monde japonais, me semble-t-il, n'est ni solaire, ni lunaire, ni océanique, ni animal, ni végétal, ni même vivant. C'est le torrent de montagne. Ce qui verse et tombe très vite, ce qui chute, comme l'aurore dans l'aube. Derrière le vide, c'est le torrent vertical, dans la montagne, le secret de la fleur. Voilà ce qui doit être vu, surgissant sur le fond du tokonoma, ou sur le flanc de la montagne au loin, à l'intérieur de la masse des pins, ou déchirant la croûte de la neige. Le torrent, la cascade, la chute, le ruissellement du torrent sur le flanc de la montagne est plus vertical que la fleur végétale, plus vivant que l'animal, plus bondissant que tout bondissement du bouquetin, du renard, de l'écureuil, du lièvre, dans le vert sombre de la pinerée qui couvre la montagne, plus blanc et plus pur que la lune ou que l'éclair. C'est ainsi que, pour les Japonais, curieusement, le plus vivant est le ruissellement du torrent dans la montagne, qui n'appartient pourtant pas à ce que les Occidentaux conçoivent comme biologie du vivant, mais qui est néanmoins tellement plus mouvant que tous les bons. Voilà. Est-ce que ça, pour cette première partie des fleurs, ouais. Est-ce que c'est clair? Parce que j'ai peur d'avoir été un petit peu confuse.
Moi, il y a une question ouais. que je me pose, où il insiste beaucoup sur l'horizontalité, la verticalité, comme si... je me pose la question de qu'est-ce que ça signifie cette intervention en fait. Pourquoi le faire, pourquoi changer quoi, pourquoi, et puis qu'est-ce que ça signifie un peu plus profondément que... juste changer comme ça. Est-ce qu'il y a une pensée derrière, une tradition, une évocation
De ce que j'ai compris, il s'agit vraiment de venir redresser quelque chose. Ce qu'ils disent, je crois, c'est qu'il y a la fleur, c'est vraiment ce qui pousse, donc ce qui est vraiment entre ciel et terre. Dans sa verticalité, puisque attirée par la lumière, et en la remettant dans ce tokonoma là, ouais, c'est ça. C'est ce même mouvement en fait, c'est-à-dire de remettre quelque chose, c'est l'endroit dans la maison quelque part qui se situe entre ciel et terre, et c'est de vraiment pouvoir. L'idée c'est vraiment de pouvoir redonner une force de vie éphémère en fait. Dans cette forme de redressement. Hein. Voilà. D'après, je sais
cette
pas.
Idée ouais. Le redressement, comme tu dis. L'intervention humaine, quoi, sur le sur la nature.
Là où ça me parle, après, je dis pas c'est ce que racontent les Japonais, le pourquoi ils le font. Pour moi, l'allongée, c'est la mort, la nuit. Ah, et le redressement, c'est la vie. Et donc, alors, c'est une interprétation.
Oui, mais voilà, pourquoi pas.
Donc, c'est transmettre de la force de vie aux anciens. Ça pourrait être ça ou toute autre chose. Quoi.
En tout cas,
moi, c'est ce que ça m'évoque. Quoi.
Oui, par exemple.
Mais c'est vrai que ça mériterait presque des recherches, ta question.
Oui. Et puis, moi, le terme cueillir aussi, c'est. Et comment dire, j'y vois aussi un mouvement de. Comme si on voulait s'accaparer ou se.
Oui, c'est ça. Supprimer, carrément peut-être.
C'est quoi?
Supprimer,
tuer.
Oui, ben, que, oui, alors, oui, ben, si on va jusqu'au bout des choses, oui, bien sûr. Mais, comment dire, cueillir, c'est pas bon. À un moment donné, non, d'ailleurs, t'as dit accueillir.
Ouais. Pour moi, c'est s'accaparer la beauté, non, c'est pas ça. Cueillir.
S'accaparer. Oui, oui, s'accaparer, oui, c'est le, oui. Se privatiser, quoi, le, quelque ouais. chose. Cueillir.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à cette idée que pour grandir soi-même en vie, il faudrait pomper une autre vie, en fait. Il faudrait. Bah, c'est ça qu'il dit dans le sacrifier, en fait. C'est-à-dire que tu vas sacrifier une vie, mais pour augmenter la vie de quelqu'un d'autre qui en a besoin. En fait, soit l'ancêtre, soit le guerrier, soit la personne qui est malade, soit le. Tu vois, et qu'il faudrait venir finalement à. Oui, à venir écraser, en fait, du vivant pour. Donner de la vie à d'autres, en fait. Et c'est ce contre quoi, dans son livre, et de manière très subtile, hein, vous voyez, il n'est pas. Enfin, je ne peux pas vous lire tout le livre, mais vraiment, c'est un livre qui vaut le coup. Et il n'est pas de tranche. C'est-à-dire qu'il est, très subtil, hein, et nuancé dans tout ce qu'il dit, Kinya. Mais clairement, ce qu'il dit, c'est que ni le bonheur, ni quoi. Enfin, jamais n'ont supposé un tel geste, en fait. Voilà. Et qu'il y a quelque chose qui peut-être peut trouver un autre chemin, justement, dans l'accueillir, dans cette contemplation, en fait, beaucoup plus lente, beaucoup plus accordée au vivant, quoi. Voilà. Que la vie peut aussi potentialiser la vie. Voilà. C'est pas le. Il y a une idée presque, la mort va potentialiser la vie, vous voyez ? Et là, j'ai l'impression que Kinyar, il dit l'inverse, quoi. Ce qui potentialise la vie, c'est la vie, en fait. Bon, c'est comme ça que je le comprends.
Après, par rapport aux fleurs, moi, ça me rappelle l'école de mes filles. Là, il y a des fleurs devant l'école qui fleurissent. Je ne sais pas à quel moment elles fleurissent. J'ai l'impression que je les ai vues la dernière fois en septembre, mais. Donc il y a des fleurs magnifiques, il y a des bosquets de fleurs devant l'école, mais qui sont vraiment très belles. Et la dernière fois qu'elles ont éclos, je me suis fait la réflexion que ce foisonnement de personnes à la sortie de l'école, j'ai l'impression que personne ne voyait les fleurs, c'est-à-dire que les enfants, les parents, tout le monde était dans l'activité. Et ces fleurs, elles étaient là pendant 15 jours, et bon, alors c'était une impression que j'avais, parce que, en tout cas, alors qu'on aurait pu être tous autour des fleurs avec les enfants et les parents, et du coup, moi c'est pareil, cueillir une fleur, j'ai toujours du mal à le faire. Et en même temps, là, Daniel t'a amené une fleur. Et je trouve qu'en pensant à ces fleurs, on a l'impression qu'elles attendaient des regards, en fait. Qu'elles étaient dans. Qu'elles attendaient les regards. Enfin, c'est Christian Bobin qui dit que le monde attend des regards, en fait. Et on a l'impression que les fleurs étaient là dans toute leur beauté, attendaient des regards qu'elles n'ont jamais. Enfin, j'avais l'impression qu'elles ne les auraient pas. Et du coup, c'est ce que je vois de beau dans le fait d'amener une fleur, c'est que amener cette beauté-là, il y a quelque chose qui donne une belle place à la fleur. Il y avait ces tulipes là sur la table, moi ça m'a un peu marqué. Les fois passées, il y avait un bouquet de tulipes qu'on avait mis sur la table. Et malgré tout, la fleur cueillie, de fait, elle existe d'une façon tout à fait particulière. Alors après, bon, il faudrait interroger la fleur sur son désir. Est-ce qu'elle préfère être. Non, de toute façon, la fleur, elle a toujours la même destinée, elle finit par l'année. Peut-être qu'elle vit plus dans le jardin ou dans la plate-bande que sur la table. Mais en tout cas, j'ai pas de réponse, mais là, je trouve qu'une fleur cueillie, ça contribue quand même à la beauté.
Oui. Et il y a un truc important dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que. Tu cueilles une fleur, peut-être pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre.
Bah voilà,
c'est surtout pour offrir.
Mais c'était le sens.
Voilà, comme une offrande de Dieu,
c'est
par
ça,
exemple.
En fait. Ouais,
tu parlais des fleurs qu'on met dans une soucoupe. On voit ça dans les temples.
Oui, mais on fleurit les temples, on fleurit les tombes.
Oui, tout à fait.
Tu vois, on fleurit.
Là, ça, c'est, voilà.
C'est vraiment.
Du coup, il y a quand même deux.
C'est pas pour rien.
Du coup, là, ça prend une autre signification. Parce qu'effectivement, c'est offrir la vie.
Le beau.
Et le beau à quelqu'un ou Voilà, et vous le... ouais. Merci. Vous le faire, ouais. Vous le faire surgir. Mais le geste lui-même de cuire, il est compliqué. Je sais pas comment dire. Oui, il est compliqué.
C'est compliqué.
C'est un sacrifice, quoi, quelque part.
Mais c'est ça. Et c'est, en fait, Patrice, tu résumes très bien tout ce que dit Kinner, finalement, parce qu'il parle exactement de ça et de ce... C'est symbolique de l'offrande, quoi. Tu vois, finalement, quelque chose qu'on voudrait sacraliser, mais qui finalement vient. Enfin, toute une réflexion là-dessus, encore une fois, c'est très nuancé. Mais il faut le mettre aussi en parallèle avec la. Parce que c'est une métaphore aussi, les fleurs, pour dire, mais comment nous, on vit le temps. Parce que la réflexion première de Horace, c'est cueillir le temps. Enfin, cueillir le jour, pardon. Donc pourquoi il faudrait-il qu'on on cueille le jour, vous voyez. Puis moi, je vois. Enfin. Beaucoup, puis moi-même, hein, pareil, j'ai cette tendance à vouloir arrêter le temps, enfin, ou alors à rester bloqué dans un événement, dans quelque chose, en fait, qui aurait dû être rendu à l'éternité, vous voyez, enfin, et quelque chose comme ça, en fait, mais qui fait qu'au final, on va arrêter la vie même dans une force qui aurait pu être encore plus belle, en fait, qui aurait pu dépasser cette force-là, finalement. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends.
Oui, bien sûr.
Ou pas, s'il y a un orage, s'il y a un orage qui suit, tout à fait. Tout fauché.
On ne peut pas, ouais, c'est vrai.
Ouais. Oui, oui. Bah, tu vois, il suffit d'en parler pour que ça...
Orage.
Que ça éclose.
La fleur qui reste à sa place, c'est ce fan... dans sa raison d'être, hein, juste et de se dérouler. Voilà, oui. Celle qui est cueillie et offerte, elle se fane pour l'autre, pour un autre, pour les autres, pour, je ne sais pas, auprès d'eux.
Et puis il y a les fleurs sauvages et les fleurs d'élevage aussi, quoi.
Alors là.
C'est notre question, quoi. Qui sont élevés pour être cueillis, et puis il y a les fleurs à l'état sauvage aussi.
Que ta solution, ce serait que la fleur donne son point de vue, mais c'est ça qui est compliqué.
C'est sûr qu'on est tenté de l'interroger.
Surtout, hein, qu'elle
c'est
surtout qu'elle est déjà dans un.
Tu vois, méditation
elle a
de la
déjà
fleur,
été cueillie.
Il y a Angélus. Angélus Silésius qui disait la rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle ne demande pas si on la voit.
Voilà, mais je pense que c'est ça, ouais.
Ça dit... C'est nous qui.
Ouais, ça dépend quel sens on met là derrière.
Elle sent pourquoi, quoi, elle est là.
Oui, elle-même.
Ouais, mais c'est vrai.
Je pensais, Vinciane Després, je viens de regarder encore un. Un documentaire, je vous recommande, allez voir sur Arte, Vivant parmi les vivants. Si vous connaissez, quelqu'un connaît Vinciane Després ?
Ça me dit quelque chose. C'est quoi ce documentaire ?
Pardon ?
C'est quoi ce documentaire ?
C'est à partir des chevaux Przewalski, c'est ça ? Non, c'est une race particulière qui est rendue à la liberté. Dans les Cévennes, ouais, je crois. Et il y a, voilà, donc c'est remarquable, c'est filmé d'une manière, mais c'est à pleurer tout du long. Enfin, on les voit, ces petits chevaux, ils sont petits, trapus, ils ont une tête un peu particulière, ils sont là, ils sont sous la pluie. C'est assez hallucinant. Enfin, bon. Et puis, et donc il y a des moments où elle était avec Baptiste Morisot, je crois, il s'appelle un philosophe, et Vinciane Després, et qui discutent un peu, qui sont dans des réunions avec des gens, et puis, etc. Mais surtout, elle dit à un moment, elle dit les animaux, peut-être bien que les animaux écrivent. Donc, voilà, ils écrivent, et si on ne voit pas ce qu'ils écrivent, c'est parce qu'on ne sait pas lire les langues étrangères. Donc je me demandais, quand j'entendais dire ça, Je me demandais si le végétal et les fleurs notamment écrivaient aussi quelque chose. Peut-être. Et parce que c'est, voilà. Je crois que les Japonais, ils approchent de ça. Hein. C'est clair. Aussi peut-être avec leur écriture, les idéogrammes.
J'ai malheureusement perdu le Torah. Je peux pas le sentir, je sais pas si ça sent.
Mais là, elle a été cueillie, elle meurt pas.
Pour l'instant, non.
Pas encore.
Elle vivra peut-être autant que si elle n'avait pas été cueillie.
Peut-être.
Ouais. Peut-être qu'elle est malheureuse ici. Ouais. Mais en tout cas, elle est comme en sursis parce qu'en fait elle a de l'eau, mais son élément c'est quand même la terre. Quoi.
Passe dans Lotus. Les fleurs sont quand même là pour séduire aussi les insectes pour qu'ils viennent à elle, pour toutes ces couleurs.
Oui, elle a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Pour attirer. Voilà.
Et tout ça, ouais, ça envoie aussi que. Enfin, l'affection de Kinner, je trouve, d'accepter aussi que la beauté réside dans ce qui est transitoire, fragile, et puis va disparaître, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Et je pense qu'il parle un peu de ça, finalement, et qu'elle n'est pas toujours. Enfin, voilà, que c'est quelque chose qui fait partie, comme nous, du temps et de ce grand mouvement. Et juste, je finis juste parce que justement en parlant de la beauté, il y a des passages intéressants, notamment ce passage que j'ai relevé, c'est qu'au Japon, parce que là il est à fond dans la tradition japonaise dans ce livre, le beau ne signifie pas splendeur, mais ça signifie affection pour la vie la plus fragile. Alors, je vais vous lire juste ce passage, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. C'est ça, non. Le beau au Japon ne signifie pas splendeur. Le beau ne signifie pas resplendissement. Le beau dans les îles désigne plutôt l'affection irrésistible pour le plus naissant du vivant, pour les êtres les plus fragiles, les plus petits, les plus bébés, les plus désemparés, les plus éphémères, bourgeons, chatons, insectes, chiots, bonsaïs. Bourgeons enfin des fleurs à l'instant où elles s'ouvrent à peine, encore enduites de la viscosité de leurs semences, qui fait comme un vernis dans la lumière. Attendrissement plutôt qu'émerveillement. Compassion plutôt que tonitruation. Fulguration, sidération, splendeur. Le beau est à la fois touchant, enfant, petit, détaillé, minuscule, concentré, neuf, innocent, pur. Cette prématuration et cette pureté font le trait essentiel. La surprise provoquée par la force du printemps, ouvrant les fleurs au bout des branches, constitue le plus beau du temps dans son témoignage, le plus délicieux parce que le plus fragile. Attendre le brusque fleurir sur la branche, l'instant déchirant de l'éclosion du bourgeon encore ramassé dans sa coque de sève, alors on coupe. Ouais. Donc voilà, ça
voilà, enfin, j'aime. Pas la beauté justement parce qu'elle elle disparaît, elle ne vit pas longtemps. Mm-hmm. Je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose aussi de la la rareté, de l'éphémère, oui. Oui, c'est ça.
Exactement. C'est vrai.
Mais je pense que pour.
Ouais. Par exemple, moi qui voyais de chez moi, parce que ce soir c'était le centenaire, on voyait toute la chaîne des Alpes. Ce qui est d'ailleurs mauvais signe. Mais je me disais, si on voyait ça tous les jours, on ne le verrait plus.
Oui, tout
c'est
à fait.
Hein, c'est parce que justement c'est très rare que tout d'un coup. Ouais.
Mais c'est ça. Mais c'est un peu comme ça que j'entends la notion de beauté dans cette tradition japonaise, justement. Ouais. C'est l'affection pour tout ce qui est fragile, voilà. Transitoire, naissant.
Exactement. C'est vrai.
Voilà, beaucoup. Ouais, j'aime bien quand il dit. Comment il dit ça plutôt qu'émerveillement, là. Oui, attendrissement plutôt qu'émerveillement. Enfin, quelque chose comme ça. Ouais.
Est-ce que l'art va pas finalement chercher à à rendre cette fugacité éternelle. Enfin, l'art, c'est quand même une expression de
effectivement, on peut le fixer. Mais c'est-à-dire qu'il y a des époques, finalement, dans l'art, il y a des... C'est pas... Oui, c'est vrai que c'est... Moi, quand je dessine, quand je peins, je ne pense pas que ça sera éternel.
Oui, mais tu veux capter un instant quand tu peins. En fait, quelque part, tu veux rendre immortel cet instant en le représentant et en l'immortalisant sur une toile.
Si j'ai le pain, c'est parce que je suis émue par cette ça me touche. Mais je pense pas à la autant à la pas durée.
Dans les faits, c'est une manière d'immortaliser un instant, un paysage.
Peut-être pas. Oui.
Peut-être nous montrer ce qu'on voyait pas.
Oui, c'est ça. Est-ce
que vous avez... Alors c'est sûr que quand je vois un paysage, je ne sais pas si la personne, si j'ai quelqu'un à côté de moi, verrait la même chose. Ça c'est vrai.
J'en ai plus pour très longtemps. Il y a un passage intéressant sur la dépression dans le livre.
La dépression.
Mais moi, vous savez que je suis. Enfin, j'adore vous remonter le moral.
Mais tu fais bien de prévenir.
Voilà.
C'est pour finir.
Si pour...
On se sent concerné, on va écouter.
Oui, c'est ça. Et en fait, donc. Non, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des phrases comme ça qui m'ont marqué dans le livre et disaient que la dépression nerveuse confronte l'âme au jour. Et ça c'est une phrase que je vais retenir, je pense.
Ah, c'est bon.
Parce qu'en fait, on a tendance à penser l'inverse, d'ailleurs, que ça le confronte à la nuit. Mais en fait, c'est au jour. Il dit, puisque le dépressif, en fait, il ne sait plus comment passer le temps, la durée d'une journée, en fait. Et il dit que pour lui, l'unité de la vie solitaire, c'est le jour. Et en fait, quand on est porté, notamment vers la dépression ou même la mort dans des velléités de suicide, etc., c'est comme si on en venait à oublier complètement l'artifice de l'hebdomadaire, en fait. C'est ce jour-là, je ne pourrais pas le passer. C'est ce jour, en fait, là. Mmh. Et qu'on oublie de l'insérer dans une chaîne, en fait, comme ça, de projection de la semaine, de l'année, de comment le temps est construit, voilà. Et, alors, attendez, je crois que je vais noter juste le page 57. Non, mais j'ai rien, page 57, 66, pourquoi? Ah, c'est parce que si je me trompe de livre, forcément là ça
va plus. Il n'y a
rien, rien, c'est vide la page 57. Ouais. Pourquoi j'ai pas noté jusqu'où je devais lire? Pourtant d'habitude je. Bon, attendez une petite seconde. Oui. Donc il dit, la dépression nerveuse confronte l'âme au jour. Le problème que se pose le déprimé est élémentaire. Comment traverser l'angoisse de la durée d'un jour? Comment franchir le cap de la journée? C'est ainsi que la journée qui éclot avec l'apparition du disque solaire sur la ligne de l'horizon est devenue un rocher de Sisyphe qu'il faut rouler en projetant les deux mains en avant, au-dessus de soi, entre deux nuits. Incroyable montagne de la journée qui doit être gravie seconde par seconde, sans que s'ouvre soudain l'abîme, sans rouler dans l'abîme, etc.
S'enrouler comme du verbe s'enrouler ou
non, sans rouler dans l'abîme, sans jeter un regard vers lui, etc. Sans se laisser envahir par l'angoisse, panique, et sauter en elle, vertigineuse. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une citation que je vous ai pas notée, mais bon, tant pis. Kinner, ouais, lui, il est particulièrement sensible à cette vulnérabilité humaine face à la tristesse au vide. Il a lui-même traversé deux profondes dépressions qui détaillent un petit peu
plus ici dans ce livre et notamment sur la manière dont il s'occupait, enfin, il reparle un peu du temps et de comment passer le temps dans ces moments. Et lui, il avait trouvé, il faisait de la tapisserie en fait, il passait son temps à faire de la tapisserie. Mais bon, la vision de Kinner de la dépression, après, elle est très nuancée. Enfin, il n'en parle quasiment jamais comme d'une maladie clinique, quoi, mais plutôt comme d'une sensibilité profonde à la mélancolie, à la fragilité de l'existence, la conscience de la perte. En fait, pour lui, c'est comme un petit peu une forme de condition un peu ontologique, quoi, qui va infuser en son écriture. Voilà, il y a enfin, cette mélancolie souvent très palpable chez lui, et qui est tout le temps un peu contrebalancée aussi par, par une quête un peu d'un... De la beauté, quoi. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans ce livre, il nous dit, c'est comme s'il nous invitait en fait à nous défaire de tout autre référent que le soleil, à abandonner le jour à sa lumière. Je pense que c'est sa manière à lui aussi d'avoir peut-être traversé un moment la dépression. Alors, il dit « Je me suis proposé d'étendre ce mouvement d'aller et de revenir dans la dimension du jour, à une façon de vivre. Ce que j'avais prolongé dans la nuit, parce qu'il parlait avant de comment, notamment dans ses dépressions, dans les phases d'écriture intense, comment il venait en fait... investir la nuit, quoi, le temps de la nuit. Et comment le jour aussi était beaucoup plus grand. Donc ce que j'avais prolongé dans la nuit, je le poursuivis dans le jour et ne m'inquiétais plus de tous les autres référents du temps que le soleil. C'est un des plus beaux vers de Jean de La Fontaine qu'il a corrigé au dernier moment sur son carton d'épreuve. Entre guillemets, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut abandonner au temps lui-même, dont il ne faut rien faire, qu'il faut chômer, dit-il. Et il dit, je chômais dans la nappe du jour où se mêlaient les heures à la seule indication de leur lumière. Mmh. J'aime bien, puis il en reparle plus tard. En fait, ce qu'il dit, alors juste pour finir... oui, c'est parce que j'ai bien aimé ce qu'il a dit là-dessus. Ça vous va si je vous lis encore ça? Sur le soleil, justement, en fait. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans le soleil, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un sens, il y a une direction. Il dit, curieusement, il se trouve qu'il y a un sens dans le monde où nous vivons. Non pas dans l'univers, mais sur Terre, il y a une orientation qui est due au soleil. Cette orientation n'est pas du tout humaine, elle est solaire. Le soleil, voilà le sujet. Ce n'est pas nous le sujet. Le sujet, c'est le soleil qui est à la source de ce mouvement qui va de l'est vers l'ouest. Ce mouvement qui est le contraire d'une pensée ne se retourne pas. Il ne rétrocède jamais dans le temps, ni dans l'espace. Jamais le soleil ne va d'ouest en est. Jamais la journée ne va du crépuscule vers l'aube. Jamais l'âme ne commence son éveil dans le ululement sourd de la chouette pour finir sa veille dans les carillons des cris des coqs ou le jacassement des pies ou le croissement des corbeaux. Le soleil, tout neuf, revient par l'est chez les animaux, revient par l'est chez les hommes, revient par l'est chez les plantes, revient par l'est sur la mer, revient par l'est sur le versant de la montagne. Un unique voyage commence à l'est qui nous dépasse. Telle est la rive chamanique chez les anciens sibériens. Telle est la première image qui ait été répertoriée chez les premiers hommes, qu'ils ont rapportée et chantée dans leurs mythes, qu'ils ont mimée et dansée dans leurs rites. Le cours du fleuve du destin va de la source à la mer, de la naissance à la mort, d'est en ouest, comme le disque soleil, et la danse chamanique le suit, comme la lune de la terre. Comme la lune de la terre. Le muscle de l'aube, derrière le rythme du temps, ne concerne que la Terre et ses minuscules habitants dans la nuit infinie. Voilà, bon, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais juste peut-être... Alors, est-ce que je vous parle de ça, la dernière anecdote Ouais, allez, cette dernière anecdote, donc c'est ce qui parle du, à un moment du livre de Sidney Stewart, je ne sais pas si vous l'avez lu,
Give Us a Day.
Sidney Stewart,
non.
Give Us a Day, ça s'appelle ? Non ? Give Us a Day. Et Sidney Stewart, c'était un... En fait, ce livre, c'est un mémoire très poignant sur les, ses expériences en tant que prisonnier de guerre américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que lui, il était détenu en fait dans un camp de détention japonais. Et en fait, il fut apparemment le seul de tous ses compagnons à survivre. Et en fait, Kinnear, il raconte comment il s'accrochait à tous les éléments du vivant et de la beauté qu'il pouvait trouver autour de lui, et notamment à une orchidée sauvage. Et comment est-ce que finalement il doit sa vie à une orchidée sauvage qui regardait tous les jours par les barreaux de sa fenêtre. Enfin, voilà. Et,
merci. Donc, c'est ce qu'il a vécu, lui.
Lui, c'est lui qui raconte ça dans ses mémoires, apparemment. Et après, je termine. Ouais. Ouais, ça. Il s'accroche à la vision d'une orchidée sauvage dans le fossé, au loin, sous le barbelé. Il doit sa vie à une fleur. Il s'efforce de ne penser qu'à des choses qui restent de la vie, qui n'ont rien à voir avec l'espèce humaine, ni avec les guerres, ni avec les nouveaux procédés d'anéantissement qu'elle met au point, ni avec les radiations et les centrales qu'elle introduit pour détruire le principe même de vie qui y est survenu par hasard jadis. Il préfère faire porter son attention sur quelque chose de plus ancien que l'homme et qui rappelle la nature avant qu'il n'y surgit. Voilà. Et ce très beau passage, vraiment, toujours un peu dans ces mémoires-là, qui évoque vraiment l'importance de la prière du soir, en fait, chez ces prisonniers, qui n'était pas du tout un emballement mystique, parce qu'en fait, ils étaient tous devenus plus ou moins athées, quoi. Même le prêtre, apparemment, personne ne croyait. Mais par contre, il y avait quelque chose de l'ordre d'un rituel, vraiment, ce passage, je trouve extraordinaire. En fait, ils disent que ce qu'ils demandaient, finalement, de leur prière, c'était un autre jour. La promesse d'un autre jour. Non pas, finalement, une tentative de survivre, mais une tentative d'être victorieux sur l'envie même de mourir. Vous voyez ? Et je trouve que ce passage est vraiment magnifique. Parce que il parle de ça, puis il parle du fait qu'en fait la prière, d'ailleurs tout comme l'écriture, tout comme la rencontre, enfin, il parle du fait qu'à un moment il faut être deux pour survivre. Il y a la fleur, il y a lui, il y a le regard entre, en fait, il y a l'entre, en fait, l'entre-deux, il y a ce qui va lier les regards, il y a ce qui va lier l'homme à la prière, il y a ce qui va lier les êtres entre eux. Et je termine là-dessus. Alors, give us a day, O Lord. Donne-nous encore un jour, ô Seigneur. Il est question, dans ce qu'on réclame, d'être victorieux sur la tristesse à mort plutôt que de survivre. C'est ça, non. Donne-nous encore un jour. Pour survivre, il faut être deux. De même, la naissance suppose la mère dans l'univers couché. De même, la cure analytique requiert ce corps silencieux et à demi dressé derrière soi. De même, dans le sanctuaire, Dieu est en pied, debout, les bras écartelés, devant le corps qui s'agenouille, les mains jointes, qui pleure. Deux mains se joignent, deux bouts de bois se croisent à l'angle droit, ou en roseau, ou en palme, ou en buis, ou en marbre, ou en or, dans chaque prière. Voilà ce que cherchent à retenir du temps ces deux mains qui se joignent, un autre jour, face à aujourd'hui dans le temps.
Même quand il est resté seul, Sidney Stewart joint ses deux mains. Se mettre à genoux sur ses deux genoux sur le pavement glacé, lever son visage, joindre les mains et glissant chaque doigt entre chaque doigt, et en serrant très fort, c'est déjà être deux. Parler à quelqu'un, c'est survivre sous ses yeux. Même si on s'abuse des traits d'un souvenir, même si on crée avec n'importe quoi sa silhouette, même si on invente son regard, supplier suffit. Parler à plus personne dans le vide, écrire, c'est survivre dans le vide. Jamais un véritable écrivain n'a supposé qu'il existait un lecteur. Écrire suffit. Le vide s'emplissant de lumière, simplement le vide s'emplissant de lumière, c'est-à-dire le jour sur la planète Terre, tournant son étrange tournoiement dans le système solaire et le référent plus ancien que le soi, Dieu et Dies. La communauté des hommes n'est que sa prière.
Magnifique.
Ben merci. Hein.
Merci, Mia.
C'est rien, pas grand-chose là, mais...
Cette histoire d'orchidée, je viens de lire un bouquin de Viktor Frankl, je ne sais pas si vous connaissez,
oui.
C'est un psychiatre qui a vécu dans les camps les camps de concentration. Et donc il a passé 3 ans dans les camps de concentration nazis. Et donc il est resté en forme à peu près tout du long. Du coup, il a travaillé, il a été mené de chantier en chantier. Il raconte qu'à un moment, il a croisé dans une baraque une femme. Était prisonnière aussi, qui était dans un tel état qu'elle était au bord de la mort en fait, et il parle avec elle et elle donc il demande comment ça va. Elle dit ça va, elle dit parce que je vis grâce à cet arbre en fait, et de par il y avait une petite fenêtre et elle voyait un arbre, donc ce qu'elle appelait un arbre en fait c'était juste la branche d'un arbre, et donc elle disait que bon, c'était son ami et qu'ils parlaient ensemble en fait. Donc elle survivait grâce à la présence de cet arbre. Et il lui dit, mais vous parlez de quoi? Enfin, il lui pensait peut-être qu'elle délirait. Il dit, non, mais cet arbre me parle de l'éternité en fait. J'ai l'impression de bien retrouver ce que tu... Ouais. Des circonstances similaires et puis une accroche similaire à un arbre qui finalement permet d'accepter la mort. Parce que je pense qu'elle savait qu'elle allait mourir. Avec toute cette ouverture par la fenêtre et par l'éternité.
Moi, je connais une histoire, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui la connaissent. C'est l'histoire d'une nonne qui, japonaise, qui arrive dans un village, la nuit tombe, etc. Elle se dit, c'est simple, je vais frapper à la porte des habitants. Puis il y en a forcément un qui va m'héberger, etc. Première porte de l'habitant, il refuse. Deuxième porte du village, il refuse, etc. Elle fait tout le village, etc. Ils refusent tous. Mais la pauvre nonne, elle est désespérée. Mais elle se dit, finalement, il faut faire comme une bonne nonne. Je vais dormir sous un arbre. Alors, la nuit arrive, évidemment, elle dort sous un arbre. Puis alors, finalement, elle avait du mal à s'endormir parce qu'il y avait des animaux au loin, etc. Donc, elle reste éveillée. Puis, soudain, dans la nuit, la lune arrive. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y avait des arbres, etc. Et les arbres, c'était des cerisiers. Et c'était l'éclosion des fleurs de cerisiers au Japon. Alors ça l'a transformée dans un élan mystique. Elle était malheureuse au départ, mais devant un tel spectacle, elle s'est dit, c'est merveilleux, elle n'a pas dormi de la nuit. Et finalement, le jour est arrivé. Et le lendemain matin,
Il était frappé à tous les habitants du village qui l'avaient refusé. Puis elle a dit merci à tous les habitants.
Oui, il ne veut pas comprendre.
Mais il ne comprenait pas du tout. Et alors, c'est une histoire qui s'inscrit dans ce qu'on a dit là, et la nonne qui assiste à l'éclosion des flottes cerisiers au Japon, c'était quelque chose de merveilleux. Hein, voilà, c'est ça. Eh oui. Comme quoi les fleurs, hein, elles sont puissantes.
Ça parle d'une acceptation de ce qui se passe, même si sur le moment ça ne nous plaît pas trop, peut-être qu'en fait il y a un bénéfice caché.
Oui, oui.
Alors, un peu dans le prolongement du texte de Kimia, là, j'avais pensé, parce que tu avais dit qu'on pouvait envisager d'apporter un texte qui aurait à voir avec le temps ponctuel, ou carpe diem, au fil du jour. Alors, j'ai pas eu le temps de relire, je voulais relire ce livre parce qu'il me semblait que c'était là-dedans que j'allais trouver les choses. J'ai pas eu le temps de le relire, donc j'en extrais juste deux, trois petits bouts. L'auteur s'appelle Stéphane Berger, c'est un homme, c'était un homme. Et son livre s'appelle « Dans le noir de la chance ». L'éditeur, c'est Step by Step. Et je ne sais pas du tout si on peut le trouver à acheter, enfin, si quelqu'un le voulait acheter ou voulait le lire, je le prêterais. Voulait l'acheter, je donnerais la filière pour y accéder. Je vais pas vous dire, moi, d'où vient ce livre et d'où vient cet homme. Je vais vous lire ce qu'il dit lui-même. En août 2020, on me diagnostique un cancer. Après plusieurs mois de traitement lourd, même si les soins qui me sont apportés ont une bonne efficacité thérapeutique, il s'avère que l'opération des tumeurs n'est pas envisageable. Fin janvier 2021 débute une période de 6 mois en protocole de chimiothérapie allégé. L'objectif étant de contrôler la maladie à défaut de l'éradiquer. Retrouvant une partie de ma vitalité, je donne corps à la table d'écriture. S'engage alors une traversée poétique de la maladie entre nécessité et intensité. Fil de l'écriture et fil de la vie, du jour au lendemain. Step by step. Et alors, ce que je. Les quelques petits bouts que je voulais vous lire, c'est. C'est donc un texte par jour. Voilà. Il y a des textes où il y a des jours où il y a une ligne, et puis il y a des jours où il y a deux pages. Donc le 26 juillet, rebranché à mon diffuseur de chimiothérapie, de plus en plus de fatigue au pied du mur, elle s'accumule sourdement au point mort. C'est une fatigue inoculée, impure, belliqueuse, hostile, elle fait son nid dans le noir de la chance. Le sang des poètes n'arrête pas de couler. Beaucoup ont affirmé, affirment encore, qu'ils donneraient leur vie pour la poésie. La réciprocité aussi est vraie. La poésie donne sa vie pour éloigner l'heure du tombeau. La poésie est mon ascenseur pour la chimie. Dans le fond de la lumière, faire le dos rond à l'abri de la pluie du temps, se laisser traverser par les sons des vivants comme de l'intérieur d'un fruit. Ça, c'était le 26 juillet, le 25, il avait écrit « Faire d'un seul pas la légitimation de tous les instants ». Et puis, les deux derniers textes. le 27 février. Mon désir m'emmène vers la quête de la simplicité, là où se refait le monde. Rester tenace dans l'absence d'écriture, à un moment, ma langue ne sera plus transparente, ou au contraire sera limpide sous la pleine lune, en tout cas dans l'exercice de l'ouvert. J'ai regardé hier le film de Jean-Michel Meurice sur Bram Van Velde, 1983. À un moment de l'entretien, le peintre énonce se trouver dans une séquence où il a épuisé son désir en réalisant son dernier tableau. Serein, il dit s'engager dans un cheminement intérieur qui l'emmènera à nouveau jusqu'au désir, au prochain tableau. Toute proportion gardée, je suis dans une situation sœur depuis l'écriture du poème du 23 février. J'ai confiance en ce silence, en cet avant-dire. Et le 23 février, donc, il avait écrit « Après le dégel, le vent est pâle, les visages ont déserté le réel. Rien ne manque, ni n'est de trop. » Comme si la jeunesse de ce pays n'allait jamais revenir. Presque sevrés de feu, des portraits de cendres posent leurs bagages et suscitent leur miroir tactile. Fiévreusement, ta gymnastique du cadre fait preuve de consistance onirique. Le cœur bat encore là où tombe l'instant. C'est beau, hein ?
C'est très beau. Donc tu disais c'était de qui ?
Il s'appelait Stéphane Berger. Okay. Je ne crois pas qu'il ait écrit d'autre chose. Peut-être, mais je ne suis pas sûre.
Du coup, c'est une auto-édition.
Oui, c'est ça. C'est... Oui. C'est quelqu'un qui appartenait à un groupe de personnes, les Amis du Zèbre. Le Zèbre,
oui.
Ça vous dit ?
Le Zèbre, c'était vers la place de l'Esplanade. Hein, c'est, je ne sais pas si ça existe encore. Non, ça existe encore.
Si, si, si.
Ça existe encore.
Café.
Il y avait oui, un café. Ça existe encore.
Si, si, j'ai reçu des noms.
Oui, bien sûr.
Toujours dans le même local ? Toujours là-bas ?
Je pense,
oui. Oui, enfin, bien
le... Ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir, mais...
Vers Jardin au Simple.
Donc voilà, c'est l'équipe, c'était l'équipe.
La coopérative du Zèbre, maintenant, c'est ça. Mmh. Oui, oui. Il mangeait une très grosse couscous le dimanche.
Oui.
Ça existe toujours ?
Oui, oui. Il y a toujours des spectacles, des gens qui chantent, des poètes
qui
lisent des poésies, des comédiens qui viennent lire des textes. Des... Voilà, c'est un lieu à connaître.
Non, je suis souvent passée devant, je n'ai jamais entré.
C'est pas ouvert, pareil, dans... c'est ouvert surtout vendredi, samedi.
Et ça,
samedi.
Bah c'est comme ici, il faut rentrer.
Oui, mais quand c'est fermé.
Il faut casser. Il faut laisser un mot.
Ah, d'accord.
Dites-moi où est caché la clé.
Il y avait un prisonnier du temps de la Grèce des colonels qui disait qu'il y avait un cafard qui, avec ça, qui traversait sa cellule.
Un cafard, l'animal ?
Oui. Et tous les jours, il attendait.
Ah,
on se raccroche bien à la vie. Hein.
Ah, oui.
On se raccroche bien à ce qui est vivant.
Ah oui, on se raccroche à la vie.
C'était... Oui, c'était...
Parce que ces animaux...
Oui, ça marquait le temps, ça marquait Nathan, ça marquait une visite. Ça marquait...
Et puis ces animaux sont importants quand tu es prisonnier.
Un espace...
statique.
Ouais. Sans temps, sans... sans espoir.
Un animal de compagnie.
D'ailleurs, ce n'est pas un là-haut, là ? Sur la photo, sur l'image, sur le dessin ?
Ah, peut-être. Je pense que c'est un cafard, mais ça...
Il avait une blatte.
Est-ce qu'il avait le cafard, lui ?
Ouais.
Ah oui. Mais non, il courait. Il courait devant lui. C'est pas lui qui l'avait.
Moi, je vais y arriver.
Ok.